Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans Galates 3. Ce chapitre de Galates 3 est un chapitre qui est la suite, en fait, bon, ça paraît normal, de 1 et 2, mais c'est justifié par la foi et ou par la loi. C'est la question qui est posée. Et c'est vrai qu'il nous faut relire ces chapitres de Genèse 15, puisqu'il va être question d'Abraham ou de l'Épître aux Hébreux, où on voit qu'Abraham a été justifié par la foi. Et l'apôtre Paul fait référence à ces différents textes de l'Ancien Testament. Il y a d'autres textes de l'Ancien Testament qui nous parlent justement de cette justification. Alors lisons ce chapitre 3 de Galates. Galates 3, et vous verrez tout de suite que l'apôtre Paul ne va pas avec le dos de la cuillère. Hein. D'ailleurs, ça dépend des traductions, mais des traductions qui sont encore plus virulentes que le début. Pourtant là, il dit, alors je lis, Galates 3, 1, « Galates sans intelligence ». Vous voyez, ça commence bien. Hein. « Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité ?» Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux entendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres œuvres? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut imputé comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire « L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elle ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Dans un testament établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard, ne peut annuler le testament que Dieu a établi et rendre ainsi la promesse sans effet. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, par une promesse que Dieu a accordée, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie, or là, Dieu seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni plus esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Voilà ce texte de Galates 3, et c'est vrai qu'il commence de manière très dynamique, ou même, je dirais, j'aimerais pas être ces Galates qui reçoivent ça, mais enfin, je le reçois aussi, hein. « Aux Galates dépourvus de sens » ou « Aux Galates sans intelligence ». Une introduction très rapide qui montre la préoccupation de l'apôtre et combien il est affecté par le positionnement de ces chrétiens. Il avait enseigné ces chrétiens, et tout d'un coup, ces chrétiens, hop, ils partent ailleurs. Ce n'est plus le plein évangile. Et l'apôtre aussi ne dit pas que ça, hein, aux Galates dépourvus de sens ou sans intelligence. Il pose en fait 5 questions. Et 5 questions auxquelles on devrait aussi nous-mêmes y répondre. Une interpellation qui est vraiment directe par ces questions. La première, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Puis la deuxième, est-ce qu'en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Et puis, celui qui vous accorde l'Esprit et qui a accompli des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? 5 questions. La première, qui vous a fasciné? Dans d'autres versions, c'est mis « Qui vous a envoûté ?» Quelle est la signification du mot « fasciné » ? On la connaît bien, hein. C'est attirer, dominer, immobiliser, en privant l'autre de réactions défensives par rapport à la puissance du regard. L'exemple type, c'est le serpent qui fascine un oiseau, ou le chat qui est là et l'oiseau est complètement crispé, il ne peut plus rien faire. C'est attirer irrésistiblement le regard de quelqu'un. Des synonymes, hein, on peut avoir captivé, charmé, séduire, impressionné, et puis envoûté, exercer sur quelqu'un un attrait, une domination irrésistible. Et l'apôtre Paul nous pose cette question, qui vous a dominé de manière si irrésistible? Au point que vous laissiez de côté le vrai évangile. Et quel était l'évangile qui influençait ces Galates? C'était des chrétiens judaïsants. Ça veut dire quoi? C'était des chrétiens qui voulaient que les chrétiens les Galates obéissent entièrement à la loi, soient sous la loi, c'est-à-dire se fassent circoncire. S'ils n'étaient pas circoncis, ben, le salut n'était pas pour eux, donc il fallait mériter. Et chaque fois, on a ses rites et ses mérites. Et Paul, lui, il va dire, mais c'est une trahison de l'Évangile. Hein? Le salut est offert sans les œuvres de la loi. Il est par pure grâce. Alors, ne vous laissez pas envoûter par ceux qui vous disent ça. Et c'est vrai que ça satisfait beaucoup l'être humain, et même de nos jours. Hein? On préfère faire quelque chose. Avoir un salut par les œuvres. Ah, si je fais ça, je mériterais peut-être quelque chose. Les Galates et nous-mêmes, est-ce qu'on a saisi vraiment l'évangile de Christ? Christ crucifié, sur la croix, Jésus a tout accompli. Est-ce qu'on a saisi ce tout accompli à la croix? Et est-ce qu'on l'accueille pleinement par la foi? La différence entre la loi et l'évangile de la foi, la loi ordonne, fais ceci, fais cela, alors que l'évangile est clair, il annonce, tout est accompli, tout est fait, tout est pourvu. L'évangile exige la foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, dans les promesses aussi de Dieu, les promesses qui se sont toujours accomplies au cours des siècles. Rétablir la loi revient à abolir complètement l'évangile. Et Paul le rappelle au verset 5 des Galates. Voyons, lorsque Dieu vous a donné son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu? Dieu intervient quand on a confiance en lui. Ce n'est pas en fonction de nos mérites. L'intervention de Dieu est vraiment liée à la foi. Et Martin Luther a dit la chose suivante, « L'évangile n'est pas un code de loi qui nous prescrit ce que nous avons à faire, c'est le livre des promesses divines dans lequel Dieu nous annonce, nous offre, nous donne tous ses biens et tous ses bienfaits en Jésus-Christ. C'est le livre des promesses divines dans lequel Dieu nous annonce, nous offre et nous donne tous ses biens et tous ses bienfaits en Jésus-Christ. Croire les promesses de Dieu, croire les promesses que Dieu a faites, c'est aussi pour nous aujourd'hui. C'est aussi cet évangile que nous voulons vivre et accomplir aujourd'hui. Un rappel de l'Ancien Testament, et c'est intéressant de voir que Paul ne remonte pas simplement à Moïse et à la loi, mais il remonte au-delà, à Abraham le croyant. En effet, Abraham a cru à la promesse de Dieu. Il a eu confiance en ce que Dieu lui disait qu'il aura un fils. Et cette confiance a été honorée, malgré les considérations humaines. Il était âgé, sa femme, tout autant, c'était quasi impossible. Mais impossible n'est pas le mot de Dieu. Il a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Alors on voit, d'autre part, que les Juifs et les non-Juifs sont devenus enfants d'Abraham par la foi. Et c'est ce que l'apôtre dit. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-Juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et il y a un schéma qui nous dit bien ce qui se passe. On est fils d'Abraham. Alors Abraham, comme père, il a une descendance naturelle. Alors on voit, dans cette descendance naturelle, il y a bien sûr Ismaël, il y a Isaac, il y a d'autres peuples du Negev. Et puis, par Isaac, il y aura Jacob et les descendants qui vont former le peuple juif, les 12 tribus, le peuple juif. Et on a la généalogie de Jésus, donc on voit bien que Jésus est de cette descendance-là, descendance juive. Cette identité humaine de Jésus. Et puis, on a la descendance spirituelle. Jésus, non seulement est fils de l'homme, mais est fils de Dieu. Et par Jésus, par le sacrifice qu'il a fait, nous sommes tous adoptés par Dieu. Le tout accompli de la croix fait de nous des fils de Dieu, à nous qui croyons en l'œuvre de Christ. Et il a tout réuni, juifs et non-juifs, en un seul peuple. C'est assez monumental de vivre ensemble alors qu'on est tellement différents. Mais c'est peut-être la seule association où on est poussé à vivre ensemble, où on est tellement différent, où on ne choisit pas. On vit ensemble. Les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa descendance, et là il a été précisé dans le texte, ce n'est pas aux descendances, mais à sa descendance, c'est-à-dire qu'il y a une seule descendance, nous sommes tous réunis dans le cadre de l'Église, et par Christ. Et cette bénédiction, en fait, elle est double. Nous sommes d'une part justifiés par Christ, et d'autre part, ah oui, c'est pas facile de vivre en chrétien, mais nous recevons le Saint-Esprit. Le consolateur a parfois besoin de ce consolateur. Ce consolateur qui nous conduit, qui nous montre le chemin, des fois de manière très précise, d'autres fois par la parole de Dieu. Eh bien, que nous puissions nous laisser guider par ce Saint-Esprit, que nous puissions rester dans cette dépendance du Saint-Esprit qui nous permet et qui nous donne d'avoir confiance en ce Dieu trois fois saint. Et que nous puissions être plus non sous la loi, mais avoir vraiment ce cœur nouveau, ce cœur confiant dans les promesses de Dieu. J'ai lu aujourd'hui même le témoignage d'un chirurgien, Ben Carson. En 1987, ce chirurgien a séparé deux enfants siamois. Donc c'est quelqu'un de reconnu, une sommité. Et pourtant, il dit qu'à 14 ans, il avait 14 ans et il avait usé de violence envers un camarade. Mais vraiment, ouais, c'était même avec un couteau, donc c'était pas rien. Mais heureusement, ce camarade n'a pas été blessé. Je crois que le couteau a touché sa ceinture. Et là, il était tellement navré, tellement mal. Il s'est enfermé dans sa salle de bain. Et pendant 3 heures, il a lu les proverbes. Et Dieu a transformé sa vie. Son caractère violent et tout, il l'a déposé devant le Seigneur. Et il a transformé sa vie par la foi. Alors, d'après ce qu'il disait, il continue à lire les proverbes et toute la Bible. Mais Dieu transforme, nous transforme et nous donne un cœur nouveau. Il y a pour l'homme effectivement deux destinées possibles. Celle de la malédiction ou celle de la bénédiction. La malédiction, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Si nous voulons rester sur le chemin du mérite, bien restons sous la loi. N'accueillons pas la grâce de Dieu. Essayons de faire, on n'y arrivera jamais. La loi est précisément là pour nous montrer que nous sommes à côté, que notre péché nous atteint. Mais nous avons une autre possibilité, c'est la foi, la confiance dans les promesses de Dieu. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi. Et Jésus l'a fait remarquer au jeune homme riche de manière très, très dans l'affection, dans l'amour. Hein? Mais il lui a montré que ça ne suffisait pas. Et l'Écriture est précise là aussi, et Luther l'a dit aussi, le juste vivra par la foi. Toutes les nations seront bénies en toi. La bénédiction promise consiste en trois choses principales, d'être justifié devant Dieu, de jouir de cette faveur de Dieu, parce que le tout accompli est là, d'obtenir la vie éternelle, d'être dans une vraie communion avec Dieu, jusque dans l'éternité, parce que ça ne veut pas dire que celui qui ne croit pas ne vivra pas éternellement, mais éternellement sans Dieu. Et puis, être habité par le Saint-Esprit est une nouvelle création. Et Dieu peut changer nos caractères. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. C'est un verset qui m'a parlé tout récemment. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Mais qui peut nous aider? Je ne suis pas... vous pouvez demander à mes enfants, à mon épouse, etc. Je ne suis pas toujours doux. Et ça m'arrive d'être bienveillant. Mais il y a la phrase suivante, le Seigneur est proche. Alors proche, il reviendra bientôt, certes, mais il est proche aussi au quotidien pour nous accompagner, pour nous transformer. Et Paul a précisé, comme je vous l'ai dit, la loi est là pour nous montrer que le seul chemin est Jésus-Christ. que tout a été refermé sous le péché et que nous sommes loin de Dieu. Et la loi, est-ce qu'elle va contrer les promesses divines ? Non. Les promesses ont été bien faites avant la loi. Et ce que Dieu a promis, il l'accomplira. De toute éternité, il l'accomplira pour tous ceux qui placeront leur confiance en lui. Mais qu'est-ce que la loi ? Peut-être un petit rappel, hein, c'est d'Exode 20. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et là, certaines fois, je dois m'humilier. Qui prend la place de Dieu ? Ah, ce n'est pas des choses aussi importantes qu'une idole visible, mais il y a peut-être des choses qui sont bien moins visibles et qui prennent la place de Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Prendre le nom de l'Éternel, de Dieu, en vain, c'est peut-être dire que Dieu n'existe pas. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alors si je suis sous la loi, je me lis les mains, je ne bouge plus. Non, prendre, hein, c'est dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Prendre du temps avec Dieu. Vous avez peut-être relu Néhémie, si ce n'est pas le cas, relisez le livre de Néhémie au chapitre 9. Je suis tombé assis. Ils ont pris un quart de leur journée pour lire la parole de Dieu. Un quart de la journée, 6 heures. Puis après, ils ont pris 6 heures encore pour demander pardon et louer Dieu. En tout cas, dans cette journée de repos, c'était une sacrée journée dans la présence de Dieu. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Mais je peux me poser la question, le dimanche, le jour du repos, quel temps est-ce que je réserve à mon Dieu? Et puis tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Maintenant, concentre le maximum sur 3-4 jours, fais maximum, puis après c'est les loisirs. Où est Dieu? Dieu avait prévu qu'on ait vraiment une semaine où on travaille, mais pas un travail où on est mis sous chape pour bénéficier d'autres choses. Et puis souvent, on se fatigue aussi. Honore ton père et ta mère. Alors, ça me parle beaucoup plus que quand j'étais adolescent ou jeune adulte. Honore ton père et ta mère. Parce que maintenant, quand on avance en âge, je me rends compte que des fois, je n'entends pas tout à fait ce que dit ma femme. Alors, j'aurais tendance à m'énerver plutôt que faire répéter. Ben oui, les difficultés sont là avec l'âge. Et honorer son père et sa mère, c'est de se dire, ben oui, peut-être que certaines choses, ils ont plus de difficultés. Mais est-ce que moi j'ai la patience de les accompagner? Est-ce que j'ai la patience aussi avec celle ou celui que Dieu a mis à mes côtés? Alors mon médecin disait, parce que je lui dis, ah, j'étais moins bien d'une oreille. Il m'a dit, oh mais ça ne doit pas vous déroger tous les jours, des fois, vous êtes bien content. Bon, il plaisantait, mais c'est vrai que des fois je suis bien content pour tout. Mais bon, non mais c'est vrai que c'est une difficulté, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais Dieu est présent et à nous d'honorer ceux qui sont dans la difficulté. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point, mais jamais tué. Et pourtant, en refusant Dieu de nos vies, on pourrait dire qu'on l'assassine. En lui refusant toute la place. Tu ne commettras point d'adultère. Et Jésus a dit, même un regard sur une femme est déjà un adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Et puis c'est dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La jalousie. Oui, la jalousie, c'est vraiment un poison. Et Dieu peut nous en guérir. Mais nous avons l'avantage, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul le rappelle, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers conformément à la promesse. Plus de distinction d'ordre racial, ni juif, ni non-juif, d'ordre social, ni esclave, ni libre, d'ordre sexuel, ni homme, ni femme. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous sommes tenus à ne mépriser personne. Nous sommes tous de la descendance d'Abraham si nous appartenons à Christ. Nous sommes héritiers de la même promesse qu'Abraham a eue. Il a eu confiance en Dieu et sa foi l'a sauvé. Sauvé par grâce. C'est vrai que dans Apocalypse 20, il est dit « Chacun fut jugé selon ses œuvres. » Mais nous, nous réclamons de l'œuvre de Christ. Ce n'est pas selon ce que nous avons fait, agi. La grâce de Dieu est pour nous. Et nous devons rester sous ce sang de grâce. Et Paul nous dit encore, de quoi est-ce que, pourquoi vous vous privez en fait, vous n'avez rien compris, pourquoi vous vous privez de Christ, de la foi en Christ, de la confiance qu'on peut avoir en Christ. Et il nous rappelle que cette foi en Christ, on a plusieurs choses par cette foi en Christ. Quand on repose en Christ, on doit savoir que nous avons été choisis pour être ses enfants. On n'est pas des enfants abandonnés. On est des enfants. Il est ce bon berger qui nous garde et que nul ne ravira, nous ravira de sa main. Et puis en Christ, nous avons obtenu cette délivrance, le pardon de nos fautes. Quelqu'un qui est pardonné, ben il va tout de suite beaucoup mieux. Bien sachant qu'on est pardonné. Et puis en Christ, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni. Tout en un. L'Église sera une en Christ. En Christ, Dieu nous a accordé notre part d'héritage. Nous ne méritons rien, mais Dieu nous donne. Dieu est généreux. Et puis en Christ, nous avons entendu le message de la vérité, cet évangile qui nous apporte le salut. Un salut qui nous fait avancer avec confiance dans les circonstances d'aujourd'hui. Et puis en plus, en Christ, il y a un cadeau merveilleux. En Christ, vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint. On a fêté, pas si longtemps, la Pentecôte, qui est la venue du Saint-Esprit. Dans le plan de Dieu, maintenant on bénéficie du Saint-Esprit qui demeure en nous et qui nous conduit. Laissons-le s'exprimer dans nos vies. Et puis j'en arrive à la conclusion. Et pour conclure, j'aimerais simplement vous lire les versets d'Éphésiens 1, 4 à 14, parce que je crois que ça résume bien sur quoi nous devons nous appuyer. Et de ces versets 4 à 14 d'Éphésiens 1, il y a 8 fois le terme « en Christ » ou « en son Fils bien-aimé ». 8 fois sur une dizaine de versets. Et ça nous montre bien la richesse dont nous bénéficions en Jésus-Christ. En lui, avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qui avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous, qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que en toi, nous avons tout. Seigneur, merci de nous donner toute sagesse pour comprendre et pour accueillir les plans que tu as pour chacune de nos vies. Seigneur, donne-nous aussi de regarder au-delà parfois des circonstances difficiles que nous vivons, à regarder simplement à toi et à célébrer ta gloire. Que nos vies puissent exprimer cette gloire du tout accompli, le fait que tu as tout donné. Que Seigneur, nous puissions refléter quelque chose de ta personne. Merci parce que malgré le fait que nous soyons imparfaits, toi qui es parfait, tu ne nous mets pas dehors, mais tu nous accueilles. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui nous suivent, peut-être à la maison ou ailleurs, que chacun, Seigneur, nous puissions vraiment avoir confiance en toi, dans tes promesses, et savoir que tout est dans tes mains, dans le nom de Jésus.